Nous voici dans la deuxième partie d'Okapi Service. Que faut-il faire pour éviter des cas des effondrements des immeubles en RDC? Nous vous abordons ce sujet avec Michel Ouyumbu. Il est président de la Corporation des ingénieurs BTP. Bonjour président.
Bonjour monsieur Papi.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ce sujet, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6394. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct dans le déroulement de l'émission. Par SMS, nous attendons vos questions témoignages au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mabuku, c'est moi qui présente cette émission. Jean-Marc Matouaki supervise ce numéro. Marcel Ngombo est à la réalisation et la coordination de cette émission. Et Miki nous occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de cette deuxième partie d'Okapi Service.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie, et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Que faut-il faire pour éviter des cas d'effondrement des immeubles en RDC? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. La ville de Kinshasa enregistrait le plus souvent des cas des effondrements des immeubles selon certains observateurs. Ces écroulements des immeubles causant généralement des dégâts sont souvent occasionnés par les non-respect des normes de construction à Kinshasa, la capitale, et dans d'autres villes de la RDC. Que faut-il faire pour éviter des cas d'effondrement des immeubles? C'est de ce sujet que nous sommes en train de débattre avec ingénieur Michel Ouyumbu. Il est président de la Corporation des ingénieurs BTP. Président, des immeubles qui s'écroulent les plus souvent à Kinshasa, à Goma, à Bukavu et partout ailleurs. Et les communs citoyens attribuent la faute à vous, ingénieur BTP.
Merci beaucoup, monsieur Tati, pour l'invitation. Et merci beaucoup de nous donner encore une occasion de plus de dire un mot sur un thème qui nous tient à cœur. Mais laisse-moi d'abord exprimer toute ma compassion et présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu de leur par des choses qui pouvaient être évitées. Et c'est vraiment dommage que nous ne cessons de le répéter. C'est depuis une bonne dizaine d'années que cette compétition nationale d'effondrement des immeubles a démarré à Kinshasa. J'ai une liste de quelques cas d'effondrement que nous avons eu. Je me rappelle que en 2009, il y avait eu un effondrement d'immeubles à Ndolo. Je me rappelle encore qu'en 2013, il y a eu l'immeuble Glody Saint-Ex qui s'est effondré, un immeuble de 4 étages qui était déjà en exploitation. En 2016, il y a eu un immeuble qui s'est effondré à Kasavubu. En 2020, cette fois-là, c'était à Lubumbashi, un immeuble s'est effondré sur le boulevard Ansiri. À Goma, en 2021, il y a eu un immeuble qui s'est effondré à quelques mètres du bureau de l'UNICEF et qui a blessé grièvement certains enfants. Et en 2022 aussi, à Goma, il y a encore un autre immeuble qui s'est effondré, cette fois-là, au quartier des volcans, au centre-ville de Goma. Et à Bukavu, il y a eu aussi un immeuble de 5 étages qui s'est effondré à 2022. dans la commune Ibana. Il y a encore, pour clôturer cette liste malheureuse, il y a encore un autre immeuble qui vient de s'effondrer à Lubumbashi. Donc, il y a des effondrements récurrents des immeubles dans notre pays et dans beaucoup de villes de notre pays.
Et généralement, on attribue la faute à vous, ingénieur BTP.
Je vais y arriver, M. Tati. Mais que faut-il faire pour éviter ce qui arrive? Vous savez, dans un pays, il y a le pouvoir public qui organise toutes les activités de la vie nationale.
Oui.
Que faut-il faire? Quel est notre arsenal juridique dont nous disposons pour assurer la sécurité des occupants de ces immeubles et pour garantir la stabilité de ces immeubles-là? C'est à ce niveau que la question se pose. Avons-nous un arsenal juridique contraignant pour savoir qui fait quoi dans la construction des immeubles, comment il faut le faire, sur quel endroit il faut bâtir ou il ne faut pas bâtir? C'est là notre problème. Et si nous en avons un arsenal juridique, donc, avons-nous un mécanisme de mise en œuvre ou d'application de cet arsenal juridique?
À la première préoccupation, j'ai dit oui. Nous avons un arsenal juridique.
Ah ben ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne crois pas que nous ayons un arsenal efficace qui peut garantir, d'une part, la stabilité des ouvrages et d'autre part, la sécurité des occupants. Quel est le mécanisme de contrôle des travaux que nous avons? Quelle est la réglementation que nous avons pour que tous les acteurs du secteur soient d'abord identifiés, certifiés comme ayant les compétences nécessaires pour dimensionner ces ouvrages-là ou pour les exécuter? Quel est l'arsenal dont nous disposons pour assurer la surveillance ou le contrôle de ces immeubles pendant leur construction et attester que ces immeubles ont été construits conformément à la réglementation et donner à ces différents immeubles, évidemment à la fin des travaux, les certificats de conformité? Allez-y, M. Tati, vous êtes journaliste. Je vous lance ce défi, prenez votre micro, circulez dans la ville, allez-y immeuble après immeuble, demandez si ces immeubles-là disposent d'un certificat de conformité qui atteste que les travaux ont été exécutés de la bonne manière et que les occupants peuvent y vivre en sécurité. Pas très loin d'ici, l'immeuble Gloudia s'est effondré alors qu'il y avait déjà des gens là-dedans, c'est-à-dire que l'immeuble était en exploitation. Donc, c'est à ce niveau-là que le problème se pose. Et le premier responsable dans tout ça, c'est le pouvoir public qui doit organiser cette réglementation-là.
Oui, mais la réglementation, elle existe. Quels sont les principes à respecter en amont? Lorsqu'on a un lopin de terre, on veut ériger un bâtiment. Dans la démarche, quelles sont les différentes étapes à suivre?
Moi, j'ai dit que la réglementation complète n'existait pas. Je ne sais pas si vous ne voulez pas m'écouter. Moi, je vous mets en défi. Aujourd'hui, les acteurs qui interviennent sur les travaux, qui a certifié...
Président, mais avant de délivrer, de donner au fait, parce que le ministère fait une enquête des vacances et des faisabilités au fait de la construction du bâtiment, on délivre le permis de conduire. Nous voyons dans des chantiers où il y a un panneau qui indique voilà qu'il y a un numéro, qui a un permis de construction.
Et puis après il n'y a plus rien. Si aujourd'hui on peut se rassurer qu'il y a des ouvrages qui sont couverts par les permis, mais le fait de délivrer un permis ne garantit en rien de la sécurité, de la stabilité de l'ouvrage et de la sécurité des occupants. Vous avez délivré un permis, évidemment parce qu'on vous a présenté les plans. Mmh. On vous a peut-être présenté une étude de structure qui a été faite par un ingénieur pour les dimensionnements. Mais la phase de la mise en œuvre, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous contrôlons? Est-ce que nous surveillons?
Il existe un bureau technique de contrôle.
Non, ben écoutez, je ne sais pas si le bureau technique de contrôle est fait sur les chantiers, mais je sais au moins qu'il y a une direction d'inspection au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat qu'on ne trouve jamais sur les chantiers. Cette direction d'inspection fait quoi? Elle est censée inspecter les chantiers pour s'assurer que tout va comme ça devait se passer. Mais est-ce que cette direction est sur terrain pour vérifier, évidemment, que les ouvrages qui sont en train d'exécuter sont en train d'être exécutés de la bonne manière, selon les notes de calcul qui ont été déposées, selon les plans de structure qui ont été déposés et qui, évidemment, ont permis l'octroi de permis de construire? C'est à ce niveau-là que nous avons un problème. Est-ce que cette direction d'inspection va sur les différents sites pour vérifier, évidemment, certifier la compétence de ceux qui posent des actes sur le terrain? Ah non, non monsieur, à ma connaissance, non.
Mais aussi, on parle de la déficience, au fait, le faible niveau de formation des ingénieurs et ouvriers qui travaillent dans ces chantiers-là.
Tout cela,
ce sont des millions qui sont engloutis par
tout cela, s'il y avait une bonne réglementation, on devait connaître qui est là, qu'est-ce que tu fais là, est-ce que tu as des compétences exigées, est-ce que tu remplis toutes les exigences pour être sur un chantier de construction. Aujourd'hui, tout le monde, les casques, on les vend partout. Hein. Les casques et les gilets sont vendus partout, tout le monde porte... achète son casque, met sur la tête, porte son gilet sans qu'on lui demande des comptes. Mais ça ne doit pas se passer comme ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Et tous les intervenants doivent être identifiés, connus, et dans identifiés, et affiliés à des organisations professionnelles oui. ou à des institutions ordinales. Oui. Et sauf ceux qui sont affiliés, qui ont des compétences nécessaires, peuvent poser des actes.
Oui,
mais aujourd'hui, ceux qui posent des actes, mais c'est qui vérifie ou qui certifie les compétences qu'ils ont. Ah, mais moi, je connais pas. Alors, si les choses vont continuer de la même manière, eh ben, nous allons continuer à assister à la compétition nationale des effondrements des immeubles. Bon, les gens pourront dire, ah oui, il y a eu un immeuble qui s'est effondré en France, à Marseille. D'accord, les effondrements des immeubles, il y en a partout dans le monde. Sauf que ce qui se passe chez nous, c'est beaucoup plus banal.
C'est beaucoup plus banal. Oui, mais en même temps aussi, il y a un constat qui se dégage hein, dans presque tout le chantier maintenant. C'est vous, ingénieur BTP congolais, vous n'êtes presque pas présent. Nous voyons des expatriés qui
dirigent ce chantier. Tout le monde est là. Vous savez, je vais vous raconter une petite blague. Je vais vous raconter une petite blague. J'ai passé à côté d'une immeuble en construction. Mais j'avais vu des choses qui me semblaient vraiment incroyables. J'ai garé ma voiture à côté. Si vous allez me présenter à l'entrée, ben, il y avait un monsieur, un asiatique qui était au-dessus, perché au-dessus là, et sans équipement personnel de sécurité, sans quoi que ce soit. Je me suis arrêté, je voulais parler à ce monsieur. J'ai demandé au surveillant pour que je puisse parler au chef de chantier. Mais les gars, on est allé chercher le monsieur. Il a dit, mais lui qui est-il? Moi, je ne vais pas parler avec lui. J'ai pas envie. Je leur ai dit, non, écoutez, s'il parle anglais, je peux aussi m'exprimer en anglais. Mmh. Je vais échanger quand même avec lui.
Oui.
Le monsieur a refusé carrément de me recevoir. Moi, je ne le connaissais pas. Mais je l'ai vu sur le terrain. Je me suis dit que certainement, je doute fort que ce monsieur ait des compétences nécessaires pour prendre la direction des travaux qu'il est en train de faire. Mais moi, je ne suis pas les pouvoirs publics. Je ne suis pas la police pour arrêter les gens. Mais il va falloir qu'il y ait une brigade de surveillance et de contrôle pendant toute la phase de construction. Si, évidemment, les permis peuvent nous aider à limiter les dégâts au niveau de l'octroi des permis, mais au niveau de l'exécution, c'est là où il y a encore un problème majeur. Mmh. Quand bien même au niveau de l'octroi des permis de construire, il y a encore des choses qui doivent être arrangées là-bas, parce que pour délivrer les permis, on a besoin de référentiels. Et ces référentiels, c'est par exemple les codes de construction dont le pays ne dispose pas. Les référentiels, c'est par exemple les codes de l'urbanisme, les codes de l'habitat dont le pays ne dispose pas.
Au XXIe siècle.
Avec nous, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas jusque-là. Ben, il y a un projet au niveau du ministère de l'Urbanisme et Habitat. Nous, la corporation, nous avons pris part à la relecture ou à la réécriture de ce projet de code d'urbanisme, des projets de loi, évidemment portant code d'urbanisme et de l'habitat. Mm. Nous avons pris part à l'atelier de relecture ou de réécriture de ces projet de code du gouvernement, mais bon, jusque-là, il n'a pas encore été déposé, ni débattu au niveau du Conseil des ministres, ni encore déposé au Parlement, et nous continuons à attendre, et dans l'entretemps, les immeubles continuent à s'effondrer.
Et ce sont des millions qui sont engloutis dans ces chantiers-là?
Pas seulement des millions, mais il y a mort d'hommes chaque fois qu'il y a ce genre de phénomène, mais c'est-à-dire, si je comptabilise le nombre de morts qu'on a eu depuis tous ces effondrements-là, et que ça faisait une bonne dizaine de personnes que je mettais ça dans ta propre famille, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que le problème est sérieux. Quelle est cette famille dans cette vie qui peut perdre 40 personnes et rester sans dire un mot?
Mmh. Et vous, en tant qu'ingénieur BTP, au nom de la responsabilité des Sénégalais, quand vous voyez un immeuble s'écrouler, comment cela vous fait?
Ben, c'est avec beaucoup de peine que nous prenons la parole, comme je le fais maintenant là. C'est vraiment avec beaucoup de peine, parce que nous disposons de l'expertise qu'il faut pour aider les pouvoirs publics à mettre de l'ordre dans ces secteurs-là. Mais malheureusement, c'est pas nous. Nous n'avons pas la dernière décision. Nous lançons un appel au gouvernement et nous lançons un appel au chef du gouvernement et nous lui disons que nous sommes disposés à l'aider à réglementer ces secteurs de manière à ce que nous puissions peut-être pas éradiquer, mais minimiser ou réduire sensiblement des cas d'effondrement des immeubles. Nous en avons les compétences et nous savons ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a qu'un seul aspect qui intéressait beaucoup plus le pouvoir public, c'est l'aspect permis de construire, dont nous avons appris qu'il y a eu encore un arrêté interministériel qui a été signé pour revoir les taxes à la hausse. Pour des raisons que nous ne connaissons pas jusque-là.
Oui, une autre réalité aussi est que, bon, avant la délivrance de ces permis-là, nous voyons des immeubles qui poussent, qui n'ont pas d'ici de secours et en cas d'incendie, les occupants ne savent pas par où passer.
Mais nous parlons des effondrements des immeubles, mais il n'y a pas que les effondrements d'immeubles qui causent mort d'homme. J'étais assis de l'autre côté en attendant de venir ici au studio, mais je vous informe, j'ai lu ça doit être un journal à ligne, que le lycée Mwanga de Kalemi était en feu, et que les élèves sautaient de l'étage pour sauver leur vie jusqu'en bas. Donc, il y a tout un arsenal référentiel technique dont nous avons besoin pour sécuriser les occupants des immeubles des incendies, pour sécuriser les occupants des immeubles des effondrements qui peuvent être dus aux catastrophes naturelles, comme les glissements de terrain, comme les tremblements de terre, mais aussi à de malfaçons qui sont dus à je ne sais pas comment désigner ces moutons noirs qui exercent sans être inquiétés et sur un domaine où ils n'ont pas de compétences. C'est bien malheureux.
Que faut-il faire pour éviter des cas d'effondrement des immeubles en RDC, à Kinshasa et ailleurs? Nous en parlons dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-6094 par SMS. Envoyez-nous vos questions au numéro 081-711-5001. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radiokapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radiokapi.net, la radio en différé à votre service.
Nous commençons par Monsieur Bienvenu. Monsieur Bienvenu, il intervient depuis la ville d'Ekikwit. Bienvenu, bonjour.
Bonjour, Tati. Bonjour, ingénieur Michel.
Oui, à ce niveau du débat, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, j'ai religieusement suivi l'ingénieur Michel quand il a fait. Il a essayé un peu de parler sur la situation, mais à ce niveau du débat, moi, c'est que j'aimerais voulu de son côté. Il a essayé un peu de beaucoup surcharger l'État. Aujourd'hui, nous savons que les conflits civils ou les ingénieurs, comme l'ordre des maîtres de l'ordre.
Oui, et ils ont la corporation des ingénieurs BTP.
Oui, la corporation des ingénieurs BTP. En comparaison avec l'ordre des maîtres, on essaye un peu d'avoir une observance sur les médias. Mais ici, je vois seulement l'ingénieur tenter de surcharger l'État. Quelle est la responsabilité de la corporation des ingénieurs? Il est lui-même responsable parce que là, l'État, bien qu'il a dit, l'État offre des permis de conduire. Au niveau de la corporation, quelles sont les sanctions qui sont prévues pour les ingénieurs qui construisent des maisons? Parce qu'il y a des fois, il arrive qu'un ingénieur, au départ, il avait un permis de construire une maison de R+1. Mais on va encore aller à R+3. À ce niveau-là, la corporation ne fait pas passer. Il a tout bien, il y a des débits qui allaient partout. Mais j'aimerais vous dire qu'au niveau de la corporation, qu'il y ait des sanctions sévères parce qu'à ce niveau-là, c'est qu'on pouvait aussi, même pas conjuguer, mais au moins indiquer les débits. Quand ils parlent comme s'il y a que la responsabilité de la part du gouvernement et les ingénieurs ou les corporations, il n'y a pas une part de responsabilité, c'est ce que moi je n'ai pas fait.
Merci beaucoup, bienvenue. Hein. Une très belle question. L'invité aura le temps de répondre à ta préoccupation. Hein. Il s'agit de la responsabilité de la Corporation des ingénieurs BTP dans tout ce que nous vivons dans le domaine de la construction des ouvrages sociaux, notamment des bâtiments. Merci beaucoup. Nous retournons à Kinshasa pour donner la parole à Maître Omar. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour à l'invité.
À vous la parole. Allez-y, on vous écoute.
Merci, Monsieur Tati. Premièrement, je voudrais dire à l'invité que la réglementation existe. Nous sommes un état de droit et tous les secteurs sont réglementés. Même si elle n'est pas suffisante, elle existe. Il s'agit de la loi du 20 juillet 1973 qu'on appelle le Code foncier et immobilier. D'après cette loi, pour construire, il faut des préalables. Premièrement, il faut faire l'étude du terrain. C'est les topographes qui les fait pour dire si ce terrain peut être construisable ou pas. Deux, il y a ce qu'on appelle le lotissement avec les géomètres. Il lotit les terrains pour spécifier les telles places on peut construire, comment faire l'avenue, autre chose. Et puis, on vous remet l'autorisation de bâtir. Ça veut dire des études ont été faites par des ingénieurs de l'État, des topographes, et l'État vous permet de construire. Ensuite, il y a la construction. Là où je le rejoins pour dire, il y a peut-être absence d'organisation, d'un ordre, mais il n'y a pas absence de réglementation. Et puis le fait de créer une corporation, un ordre, mais n'exclut pas le mal. Il y a un ordre des avocats, mais il y a des avocats heureux. Il y a un ordre de médecins, des médecins heureux. Le plus important, c'est le respect de la loi. Deuxième chose, je voudrais savoir la différence entre l'architecte et l'ingénieur et l'urbaniste. Parce que dans ce secteur, il y a beaucoup d'architectes qui interviennent. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs, des urbanistes. Est-ce qu'il peut nous dire c'est qui le rôle, qu'est fait l'autre, qui est le rôle de chacun, à quel niveau ils interviennent? Troisième question, il a posé un problème sérieux. Il y a l'absence d'ordre des ingénieurs. Ce qu'il dit est une réalité. Allez dans des quartiers périphériques, vous allez voir la même personne. On l'appelle ingénieur, il est le même maçon, il est le même architecte, lui-même fait le blanc. Et la maison traîne donc par miracle au passé, vraiment des autres. Puisqu'il y a absence de l'ordre, comment pouvons-nous détecter un bon ingénieur? Parce que d'après l'invité, la cause principale des effondrements, c'est qu'on confie le marché à un ingénieur incompétent. Quatrième chose, je voudrais finir par là. Je rappelle et je réitère que la réglementation existe, même si elle est incomplète. Puisque l'invité s'est plaint, parce qu'un intellectuel, mais simplement, il s'assume et propose des solutions. Qu'est-ce qu'il propose de manière concrète pour que nous puissions éviter des effondrements en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Monsieur Tati.
Merci beaucoup, Monsieur Omar, hein, pour tes quatre questions pertinentes. L'invité aura le temps de répondre à tes préoccupations. Il y a Constantin qui vient d'entrer en ligne. Il intervient depuis la ville de Lubumbashi. Constantin, bonjour.
Bonjour, Monsieur le journaliste.
Oui, nous parlons de que faut-il faire, hein, pour éviter les cas d'effondrement des immeubles en RDC. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet?
Bon, d'abord, le cas est partagé, c'est entre les ingénieurs et les exécutants du chantier sur place. Parce que l'ingénieur peut donner les plans, mais ceux-là qui exécutent le chantier ne sont pas intègres, ils ne sont pas honnêtes. Moi, j'habite tout près du chantier qui s'est effondré sur l'avenue Kato ici à Lubumbashi. Donc, vous voyez les mensonges qui sont là, ils sont en train de voler le ciment, ils volent les matériaux de construction. Mais ils oublient qu'il y a même temps que ce sont ceux qui vont monter au-dessus pour aller construire, soit pour aller installer ce qu'il faudrait installer dans les chantiers. Donc, l'État aussi a une part de responsabilité, comme l'intervenant l'a dit. L'État doit faire le suivi sur terrain. J'étais aussi un jour dans mon chantier, je vois subitement les inspecteurs qui arrivent. Ils n'ont pas fait même les constats. Je leur ai juste proposé, non, je prenais même 50 000 francs. Ils ont accepté 50 000. Ils m'avaient demandé 400 dollars. Non, il faut aller au niveau de l'habitat. Il faut aller par-ci, par-là. Mais lorsque je leur ai présenté l'argent, ils n'ont pas fait même le constat du terrain.
Et ils sont partis. Ils ont pris 50 000 et ils sont partis.
L'erreur est partagée entre l'État et nous-mêmes, le peuple congolais qui construit.
Merci beaucoup, Monsieur Constantin, pour ce témoignage. Hein. Ingénieur, comment répondez-vous à Bienvenue de Kikwit?
Merci beaucoup. J'ai bien suivi, Monsieur Bienvenue de Kikwit.
La responsabilité des ingénieurs BTP.
Je vais y arriver.
Parce que vous culpabilisez que l'État congolais.
Non, j'ai pas culpabilisé que l'État congolais. J'ai dit que l'État congolais est l'acteur majeur pour organiser le secteur. Donc, nous, à notre niveau, comme une corporation, une association professionnelle, dont l'affiliation n'est pas obligatoire, nous ne pouvons pas faire le travail de l'État. Nous ne pouvons que sensibiliser nos membres sur la déontologie et l'éthique professionnelle. Mais laisse-moi vous dire, M. Tati, que tous ceux qui sont sur les chantiers ne sont pas des ingénieurs BTP. Et tous les ingénieurs BTP ne sont pas membres de notre corporation parce que nous sommes une organisation professionnelle dont l'affiliation est volontaire. Donc, les actions que nous poserons, que nous sommes en train de poser, ne peuvent pas résoudre le problème d'une manière globale. Ça, c'est clair et net. Donc, l'organisateur du secteur, celui qui détient le pouvoir et de sécuriser la population, c'est l'État congolais. Et à ce niveau, c'est un acteur majeur. C'est avec lui que nous pouvons conjuguer, évidemment, pour y apporter des solutions au problème d'effondrement des immeubles. Nous ne pouvons pas nous cloisonner en nous disant, nous allons nous occuper de ces problèmes, nous n'allons pas y arriver. Nous n'avons ni police, nous n'avons pas la justice. Comment nous allons le faire? Nous nous arrêtons au niveau de la conscientisation et au niveau des exigences d'éthique et de déontologie professionnelle, et nous sommes redevables que vis-à-vis de nos membres.
Omar Kigalo soutient que les lois réglementant le secteur existent.
Non, j'avais dit que la réglementation pour assurer la sécurité des ouvrages n'existait pas. Et ça, je peux encore le répéter. Il a parlé de la loi foncière, là c'est l'organisation du sol, et il a parlé de permis de construire, évidemment, il y a certains documents qu'on demande, mais la réglementation globale, les codes de construction, qui doit être une réglementation globale pour assurer la sécurité des occupants et garantir la stabilité des ouvrages, nous ne l'avons pas. J'avais dit qu'il y a un projet de code d'urbanisme et d'habitat, une loi portant code à laquelle nous avons pris part à la relecture, un très bon texte, c'est un projet de loi de gouvernement qui n'est pas encore déposé à l'Assemblée nationale, qui n'est pas encore promulgué. Comment nous pouvons dire que nous avons une réglementation complète? Nous avons une réglementation, parce que dans le secteur de la construction, vous avez les terrains sur lesquels la construction doit être bâtie. Ça doit avoir une réglementation. Bon, mais un deuxième point. Vous avez les acteurs qui interviennent. Il faut qu'il y ait une réglementation sur les acteurs.
Oui.
Et vous avez les différentes phases de projet de construction du bâtiment, les études. Il faut une réglementation sur les études. La mise en œuvre ou la construction, il faut une réglementation sur la construction. L'exploitation, il faut aussi une réglementation sur l'exploitation. Vous pouvez bien bâtir un immeuble d'habitation.
Donc, d'après vous, la réglementation n'existe que sur l'espace foncier.
Sur l'espace foncier, même là aussi, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être revues. Sinon, si notre réglementation, du point de vue foncier, était efficace, on n'aurait pas eu des terrains appartenant aux écoles publiques qui sont cédés gratuitement par... Comment un individu peut s'octroyer un terrain et appartenant à une école publique? Nous les avons. J'ai suivi
des vivants couramment, oui.
Et INONG, SOS et Kinshasa.
On en a parlé récemment, oui.
Qui continue à dénoncer Paris sur les occupations. Donc, il y a d'une part une réglementation efficace que nous devons avoir, mais il y a d'autre part aussi une mise en œuvre de cette réglementation-là. Donc, il y a deux choses. Donc, à notre niveau, nous sensibilisons les nôtres, nous les rappelons en tout moment à la mise en œuvre d'une déontologie de l'éthique parce que nous avons une charte de l'ingénieur BTP. Je ne dis pas que nous n'avons aucune responsabilité, mais l'organisateur principal du secteur s'appelle l'État congolais. Personne n'a autant de pouvoir que lui.
Omar a voulu également savoir le niveau d'intervention de chaque spécialité.
Je vais parler de moi-même, je ne vais pas parler des
architectes.
Je suis désolé, je ne vais pas parler des autres. Je n'ai pas reçu mandat pour parler d'eux. Je vais parler de l'ingénieur BTP. Au niveau de la construction du bâtiment, l'ingénieur BTP s'occupe du dimensionnement de la structure du bâtiment, c'est-à-dire donner les dimensions aux éléments porteurs du bâtiment pour que les charges qui seront transmises au sol s'effacent de la manière la plus correcte et pour que l'immeuble soit stable. Il s'occupe de l'aspect stabilité du bâtiment. Ça, c'est l'ingénierie du bâtiment. Il vous stabilise la construction. et il vous dimensionne les éléments de structure de manière à ce que ce dimensionnement soit le plus économique possible, mais ce dimensionnement doit répondre à la trinité de constructeurs que nous appelons la sécurité des usagers, la stabilité de l'ouvrage et l'économie des matériaux. Voilà le travail que l'ingénieur BTP fait dans le secteur du bâtiment. Évidemment, après avoir fait les études, mais il peut mener sur terrain l'exécution ou la réalisation de ce projet-là. Évidemment aussi, il peut, après avoir construit les bâtiments, entrer dans l'aspect exploitation de ces bâtiments pour que pendant toute la phase de vie de l'ouvrage, il assiste aux travaux de maintenance et ainsi de suite. Voilà ce que moi j'ai fait. Pour les autres, je n'ai pas reçu mandat de parler de ce qu'ils font. Voilà ce que je fais sur les bâtiments et ce que nous, nous faisons en tant qu'ingénieurs BTP sur les bâtiments.
Oui, mais il y a aussi Constantin hein, qui a témoigné, qui a donné, parce qu'il est, il était dans le chantier qui s'est écroulé à Lubumbashi, où il a dit il y a une certaine légèreté dans les contrôles parce qu'il a témoigné d'avoir émis une affaire de 50 000 ou de 400 dollars auprès des agents qui sont venus inspecter les chantiers, comment les travaux évoluent.
Nous, nous pensons que ce domaine d'inspection des chantiers de construction est très vaste. Nous, nous estimons que l'État seul ne saura pas faire l'inspection de tous les ouvrages sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous, nous croyons que l'État peut s'associer à des organisations professionnelles comme la nôtre pour qu'il y ait des inspecteurs qui, évidemment, seront d'abord formés, recevant la formation qu'il faut pour assurer l'inspection du bâtiment, et qui pourront bien alors remplir leurs tâches correctement. Nous avons, il y a des villes comme la ville de Goma, aujourd'hui, il y a des immeubles qui poussent dans tous les coins de Goma.
Comme des champignons.
Mais 2022, ça a été l'année où on a connu plus de 3-4 effondrements d'immeubles à Goma. Est-ce que l'inspection provinciale du bâtiment était la mesure d'assumer seule cette tâche-là? Nous disons non.
Non.
Il y a temps de passer vers un partenariat public-privé avec les organisations professionnelles que nous sommes pour que le travail d'inspection s'efface correctement.
Comme il se doit.
Voilà ce que je peux dire à ce niveau déjà.
Oui, nous retournons au standard. Hein. Cette fois-ci, c'est Marcel. Marcel, il intervient depuis la ville de Kinshasa. Marcel, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Monsieur Tati, bonjour à notre invité.
Oui, on vous donne la parole, allez-y, directement.
Ouais, monsieur Tati, vous savez qu'aujourd'hui, c'est presque tout le monde qui est appelé ingénieur. Hein. Vous allez même voir une personne qui a commencé à lire BTP, mais qui n'a pas fini, qu'on l'appelle toujours ingénieur. Ou même s'il y a même des maisons là ou partout, là, il se démène toujours pour gagner toujours des marchés. Ce qui pose aussi un grand problème. Moi, je pourrais demander à notre invité, puisque à ce secteur-là, comment reconnaître vraiment un ingénieur vraiment en matière de construction? Parce que je vois vraiment dans notre pays, à ce cas-là, ça pose vraiment un grand problème. Je dois poser la deuxième question pour demander à notre invité. S'il y a un ingénieur qui avait donné peut-être gagner un marché, qui a construit vraiment un immeuble, mais avec le temps, on voit qu'il n'avait pas respecté un peu les conditions, à peu près quelques années que cet immeuble-là s'est écroulé. Est-ce que cet ingénieur-là pourrait être aussi poursuivi?
Merci beaucoup Roger Marcel. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous intervenez. Président Michel Ouyumbu, comment répondez-vous à Monsieur Roger Marcel?
Mais pour connaître un ingénieur, il va falloir que tous les ingénieurs qui sont dans le secteur
s'affilient à la corporation.
D'abord, nous avons un projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre des ingénieurs de la République démocratique du Congo qui traîne au Parlement, qui a été déposé depuis mai 2000, je crois, mai 2022, qui a été programmé à 3 reprises.
Mais qui n'a jamais été débattu.
C'est l'occasion d'en appeler au président de l'Assemblée nationale pour lui montrer que, monsieur le président, si vous permettez à ce qu'une telle loi soit débattue, adoptée au Parlement, disons à l'Assemblée nationale et au Sénat, promulguée par le chef de l'État, vous aurez alors des acteurs qui peuvent apporter efficacement une contribution pour stopper l'effondrement des immeubles.
Parce qu'elle ne peut figurer dans être membre de l'ordre que celui qui a été bien formé en amont.
D'accord. Et il y aura tout un mécanisme de contrôle des compétences pour que ne vienne pas qui veut. Vous pouvez avoir un diplôme, ça s'organise dans tous les pays du monde. Vous pouvez avoir un diplôme de médecin. C'est aujourd'hui dans notre pays, le médecin le font. Mais il y a un texte. Il y a un examen que vous devez passer pour qu'on se rassure que vous avez les compétences qu'il faut pour exercer la profession de la bonne manière.
Mmh.
Ça, c'est notre appel. Alors, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, je vous épargne des détails, monsieur Tati. Je raconte beaucoup de choses. Pas plus qu'un mois ici, je devais rencontrer quelqu'un qui est ingénieur. J'étais heureux de le rencontrer. Quand il est venu à moi, j'ai discuté avec lui. Lui ne me connaissait pas. Il a commencé à me raconter des histoires. Puis tiens, je me suis posé la question. C'est car, il est ingénieur d'eau. Quand je lui posais la question, il ne savait même pas où il a étudié. Mais il est ingénieur. Ça, il n'y a pas deux, trois semaines de cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un flou. Et c'est là où je reviens sur la réglementation. Et dans cette réglementation-là, il y a aussi les institutions ordinales qu'on doit créer, où les acteurs doivent s'affilier, où on doit évaluer leurs compétences avant l'affiliation, où on doit se rassurer qu'ils maintiennent leurs compétences pendant toute la durée d'exercice de leur profession. Ça, c'est le premier aspect. La deuxième question, c'est que nous avons une responsabilité décennale. Ça, c'est déjà dans la loi. Si vous avez pris part à la construction d'un ouvrage qui s'effondre avant 10 ans, ben vous répondrez. Vous répondez, ça c'est la responsabilité du Sénat. Tout ingénieur qui a été formé le sait. Il sait qu'avant 10 ans, s'il y a effondrement d'un immeuble dont lui a calculé, il a dimensionné la structure, ou il a exécuté, il répondra devant la justice pour ça. Donc cette responsabilité est là.
Nous retournons au standard, hein. Il y a des auditeurs qui ne cessent d'appeler là, qui sont au standard. Cette fois-ci, nous allons à Ariwara pour donner la parole à Monsieur Pierre. Bonjour. Monsieur Pierre, vous êtes en ligne.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Bonjour, bienvenue dans Okapi Service. On vous donne la parole.
Oui, merci pour m'avoir apporté la parole. En rapport avec la thématique que vous avez choisie pour la journée d'aujourd'hui, ça m'a tellement touché au cœur. J'ai tout ce qui se passe dans le milieu, précisément ici chez nous à Ariwara. Il y a certaines constructions anarchiques qui sont en train de s'élever. On ne sait pas si réellement ça ne va pas avoir peut-être des dégâts dans la vie. Raison pour laquelle j'ai essayé d'écrire là pour essayer de voir comment est-ce que les services habilités pour quand même essayer de recruter les gens, non seulement dans les secteurs privés, mais dans les secteurs publics également. Comment orienter, comment prévenir par exemple des dangers pareils si ça va arriver. Et également prévenir certaines personnes qui construisent souvent dans des milieux marécagés là. En tout cas, ce sont des dangers qui se voient de loin, mais l'État laisse faire. Et moi aussi, les constats que j'ai fait beaucoup plus, c'est le fait que nous voulons beaucoup plus faire recours à des mesures étrangères qui sont moins chères, par exemple ici chez nous dans les territoires de Haro, on a beaucoup plus tendance à faire recours aux Ougandais pour venir construire. Et ils vont réaliser un travail à vil prix, à un prix moins cher, mais après 2-3 ans, vous allez commencer à avoir des structures de la maison. C'est vraiment un peu compliqué. Voilà mon impression par rapport à ce sujet.
Merci beaucoup, hein, Monsieur Pierre. Nous rappelons que c'est depuis Ariwara que vous intervenez. Ingénieur, comment répondez-vous à Monsieur Pierre?
Mais Monsieur Pierre n'a pas tort de s'inquiéter. Parce que il ne connaît pas qui sont les acteurs. Il n'est pas sûr que ce qu'ils sont en train de construire va être fait correctement et n'aura pas de conséquences dans l'avenir. Donc, il y a encore beaucoup d'emplois que l'on peut créer dans ces pays au travers de ces secteurs ici. Vous savez, monsieur...
Mais est-ce que le fait de recourir à la main-d'œuvre étrangère est aussi une solution efficace et durable?
Non, mais nous avons des lois, nous avons un code de travail qui interdit ce genre de pratiques. On ne peut recourir qu'à une main-d'œuvre étrangère que si l'on peut prouver qu'on n'a pas la compétence locale. Comment on doit recourir à une main-d'œuvre étrangère alors que la compétence locale
existe? C'est ce que nous voyons, ingénieur.
Existe. Mais évidemment, les amis qui ont dit que je ne fais que surcharger le pouvoir public ou charger le pouvoir public, ce n'est pas vous et moi qui allons réglementer et qui allons mettre en œuvre la réglementation dans ce secteur-là. Vous savez que le secteur de la construction, c'est un secteur moteur du développement du pays. Il est moteur. Un grand secteur. Vous savez, M. Tati, c'est le secteur où même les apprenants sont payés. Montrez-moi un seul secteur où celui qui apprend, il est engagé comme tout travaux, et au moment où il profite pour apprendre les métiers, et il est payé.
Sous regarde la sensibilité de ces métiers.
Il apprend sur les chantiers. On les prend comme tout travaux. Surveillez bien ces messieurs-là. Deux, trois ans après, il ira ailleurs et dit, je suis maître. Il a appris. Pendant qu'il apprenait.
Il a gagné aussi de l'argent.
Il a gagné de l'argent en apprenant. Donc, c'est un secteur dans lequel on doit y mettre véritablement de l'ordre. Et ça génère, ça crée, c'est un secteur qui crée de l'emploi. C'est un secteur qui peut créer facilement de la classe moyenne. Facilement. C'est un secteur où quelqu'un peut investir rien qu'avec la matière grise. Rien qu'avec la matière grise, il entre dans le secteur avec sa matière grise et il génère un investissement.
Colossal.
Pourquoi ne pas encadrer un tel secteur? C'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui soutient l'économie du pays. Allez-y ouvrir un chantier dans un coin du quartier de la ville de Kinshasa. Vous allez voir ce qui va se passer. Les Maliens vont se créer tout autour. Et les jeunes gens du quartier pourront trouver du travail comme tout travaux.
Oui, mais
même s'ils n'ont pas de compétences, il suffit qu'ils aient des muscles seulement, ils peuvent se faire engager et commencer à prendre le
Monsieur
travail.
Pierre l'a relevé, à Riwara, on recourt souvent à la main-d'œuvre ougandaise parce que lorsqu'on recourt aux Congolais, bien que la main-d'œuvre est minime, mais au bout de quelques temps, vous voyez des fissures dans les bâtiments.
Bon, ça c'est un problème de sérieux, mais je peux vous assurer que dans tout le pays du monde, les clandestins, ils sont moins chers. Je ne sais pas où est-ce que les clandestins coûtent moins cher. Si vraiment la réglementation était de rigueur, ces clandestins-là ne pourront, je ne pense pas qu'en exerçant le métier, ils ont un permis de travail. Comme étrangers, est-ce qu'ils ont un permis de travail? Alors, si la réglementation était efficace, et ces gens-là ne viendront pas bousculer la main-d'œuvre locale. D'autant plus que la main-d'œuvre locale existe. Il y a de quoi, je peux accepter, il y a de quoi, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de main-d'œuvre locale pourvu qu'on nous prouve qu'il n'y a pas cette main-d'œuvre locale.
Oui.
Aujourd'hui, à Kinshasa, vous avez des contremaîtres qui viennent de la Chine, vous avez des maçons qui viennent de l'Inde, du Pakistan, ainsi de suite. Est-ce que nous manquons ces différentes catégories
de métiers, de
personnes qui peuvent exercer ces métiers-là?
Non.
C'est là où je reviens à la case du départ, la réglementation. Une réglementation efficace, contraignante, qui sera évidemment mise en œuvre.
Nous retournons au standard, hein, pour donner la parole, je pense qu'il est le dernier. Il s'appelle Godet. Godet, bonjour.
Le journaliste, bonjour à l'invité.
Nous vous donnons la parole. Allez-y.
Ok, vraiment, cette mathématique est un peu très impertinente, puisque la situation, nous voyons cela dans la ville de Kikwiti, donc à main de reprise. Je voulais demander, ici à la ville de Kikwiti, en 2014-15, son excellence, monsieur Mujito Adolphe, avait construit un hôtel durable ici dans la ville de Kikwiti. Arrivé à la finalité, l'honorable vient constater une grande erreur commise par les ingénieurs. Les ingénieurs, on a vraiment exigé de recommencer cette erreur-là. C'était une erreur grave. Les ingénieurs ont pris fuite et ils ont fui jusqu'en Europe, jusqu'à maintenant que je vous parle.
Ils sont jamais revenus.
Oui, non, pas encore revenus. Ils ont taré en Europe. La maison reste toujours comme ça et les gens commencent à cohabiter comme ça. Je voulais demander à l'invité, est-ce que, à ce cas-là, est-ce que, puisque son excellence, M. Adolphe Mujito, avait tout payé, donc le droit de bâtir tout consort, est-ce que l'État ne peut pas restituer une petite indemnité de cet argent-là? Deuxième question, quelle différence y a-t-il entre maçon, constructeur et ingénieur? Voilà, c'est Godet depuis la ville de Kikwit. Quel invité peut nous répondre?
Merci beaucoup, monsieur Godet. Excellente journée à Kikwit. Jérémy Do, vous, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité.
Nous vous écoutons, allez-y.
Le constat vous est fait. Je ne sais pas, nous, à Bandundouville, nous avons des anciennes maisons qu'on a construites en étage. Par exemple, notre banque centrale, nous avons collège Kivuvu, nous avons quelques maisons, là, c'est trois maisons. Mais je ne sais pas. Et ce que j'ai constaté, est-ce que l'invité peut nous dire un sac de ciment, quand on fabrique des briques, on peut fabriquer combien de briques? Si je pose cette question, pourquoi? Est-ce que toutes ces maisons qu'on construit aujourd'hui dans notre ville de Bandundu, je ne sais pas, est-ce que ça aura un direct comme les anciennes maisons là que j'ai citées? Quand je parle de ça, vous touchez un brique de ciment qu'on a dans là. Donc, ces briques, même si vous prenez ça dans les bras comme ça,
ça se casse,
vous
elle se casse.
Très long, ça se casse facilement. Est-ce que ça peut prendre un long direct que ces maisons, ces anciennes maisons-là? C'est ça ma question que je pose à l'invité.
Merci beaucoup, M. Géry. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Bandundu que vous intervenez. Président, ingénieur Michel.
Merci. Je vais commencer par la question de M. Godet.
Godet de Kikwit.
Bon, c'est une affaire dont je ne maîtrise pas le contour. Je ne sais pas comment je vais commenter. Je constate que c'est une affaire privée. Et je ne connais pas ce qu'il appelle une erreur grave. Je ne connais pas non plus. Mm. Mais je constate que c'est une affaire privée.
Mais il a voulu savoir si est-ce que l'honorable Moussitou peut être indemnisé.
Je me demande qu'est-ce que l'État viendra faire dans cette affaire privée.
Donc, en fait, si les travaux ont été assurés par une agence d'assurance, peut-être.
Oui, où l'État n'avait rien à voir au départ. À moins que l'État ait eu quelque chose à voir dans cette affaire privée pour que l'État puisse venir intervenir. Sinon, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment ça va se passer. Et tout ce que je peux dire, c'est que s'il y avait une structuration beaucoup plus efficace, ce genre de cas pouvait être évité. Et ça, c'est clair. Bon, il a demandé la différence qu'il y a entre maçon, constructeur,
ingénieur.
Bon, mais qu'est-ce que ça a à voir? Les maçons, tout le monde sait que c'est un exécutant. Il est mis carrément sous tutelle d'un chef de chantier, de conducteur de travaux. L'ingénieur, on sait qu'il est dans les aspects de conception, de calcul,
de direction,
et ainsi de suite. Bon, tout le monde, le constructeur, bon, je ne sais pas. Dans notre pays, on n'a pas encore défini qui est constructeur, mais sous d'autres cieux, on a quand même donné certaines définitions aux constructeurs que je ne vais pas peut-être évoquer ici. Notre ami de Bandundouville a posé la question.
Un sac de ciment peut aider à produire combien de briques?
Mais écoutez, ce n'est pas universel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec ces briques. Ces blocs-là qu'il veut produire.
Parce qu'il a déploré la qualité de briques qui sont produites à Bandundouville.
C'est ça que je dis, mais la qualité en fonction de la destination. Est-ce qu'il veut produire des blocs pour construire dans un océan où c'est salé? Est-ce qu'il veut produire des blocs
pour construire dans une zone humide?
Ah voilà. Donc ça dépend de la destination et ça dépend de la zone dans laquelle se trouve. Et là, mais quand nous les ingénieurs, nous parlons du dosage. Quel est le dosage de ces matériaux? Quelle est la composition que ces matériaux doivent avoir pour que ces matériaux, évidemment, puissent répondre à toutes les exigences du milieu agressif et à la destination finale de cet ouvrage? Non, je ne peux pas répondre d'une manière vague à l'heure pour dire non, il faut produire autant. Mais ce qu'il doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans les structures portantes. Nous ne sommes pas dans des murs porteurs. À l'époque belge, la construction avait moins d'éléments en béton, évidemment parce que tout ce qui était ferraille à l'époque coûtait extrêmement cher, le bar de fer, et le mur était porteur. Donc on avait des murs costauds pour faire un étage. Aujourd'hui, nous sommes dans la structure portante où vous avez les ossatures, soit en béton, soit en métallique, qui vous supportent les charges de démission sur le vide. Alors, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que la plupart de maisons qui ont été construites à l'époque belge ont été construites correctement. Parce que c'était soit des agences qui travaillaient avec le gouvernement du Congo belge et il y avait beaucoup d'exigences qui respectaient par rapport à ce que nous faisons, surtout en privé aujourd'hui. Quand vous construisez avec un financement de partenaires financiers techniques extérieurs ou avec un financement du gouvernement, il y a beaucoup plus d'exigences que quand les gens construisent entre eux à la cité, un client avec son ingénieur, et ainsi de suite. Donc, ces exigences-là, que les gens ne prennent pas en compte finit par le rattraper sur la qualité de l'ouvrage final.
Je chute par la question l'une des questions en fait de Omar Kigalo, maître Omar, qui a voulu savoir, la corporation propose quelle solution pour réduire sensiblement des cas d'effondrement des immeubles à Kinshasa et ailleurs?
Je l'ai déjà dit, mais c'est petit, il faut un arsenal juridique fort et efficace qui va réglementer les occupations du sol, qui va définir les acteurs qui interviennent et qui va mettre un mécanisme de contrôle pendant l'exécution des travaux, qui va définir la réglementation sur les études, sur la mise en œuvre, sur l'exploitation. Et le point le plus efficace, c'est évidemment le contrôle pendant la phase d'exécution
des travaux.
Voilà ce que nous proposons.
Nous le considérons comme votre dernier mot. Merci beaucoup, ingénieur Michel Ouyumbu. Nous rappelons que vous êtes le président de la Corporation des ingénieurs BTP. Merci d'avoir été avec nous dans Okapi Service. Nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. À la prochaine occasion. Au revoir.
Au revoir. Et c'est moi qui vous remercie.
Je veux fou l'alcool dans mon mojito. Ce soir je fais tomber les rideaux. J'ai ma tête en boule qui m'a quelque chose. Tu me donnes envie de danser le flamenco. Kako katabino mutu katakata. Tazo mona déjà ndenge bozo banga. Je ne fais pas du sale Renoir, je suis trop lumineux. J'envoie des rafales qui peuvent te terminer.
C'est par ici que prend fin Okapi Service et que vous a présenté Tati Mapoukou sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo a coordonné et supervisé cette émission. Mimi Kindou s'est occupé de la prise de son. Le rendez-vous est pris pour demain pour un nouveau rendez-vous d'Okapi Service. En attendant, portez-vous bien et bonnes conditions d'écoute de nos programmes.